Le journal Bernadette Chamonaz.
Bonjour. Quand le virus vide les salles d'opération, les trois quarts des opérations chirurgicales programmées avant l'épidémie, annulées dans le monde, 700 000 en France, un retard considérable qu'il va falloir rattraper. Victime économique du virus, Prestalis va liquider ses dépôts en région, plus de 500 emplois menacés. Pas de confinement pour les pilleurs de distributeurs de billets. Un gang aux méthodes sophistiquées a été arrêté. Dans ce journal encore, les déchetteries prises d'assaut et le championnat de foot qui reprend en Allemagne, mais à huis clos.
Les invités de la matinale à 7h50. Patricia, nous recevons
Emmanuel Richard pour les corps abstinents, c'est chez Flammarion.
Et à partir de 8h20, notre invitée politique Barbara Pompili, députée La République En Marche, présidente de la commission du développement durable à l'Assemblée. Vos questions sur le jour d'après, vos questions à Barbara Pompili, 01 45 24 7000.
France Inter.
28 millions d'interventions chirurgicales annulées dans le monde.
Annulées ou reportées, c'est un groupe de chirurgiens du monde entier qui vient de publier cette étude dans le British Journal of Surgery, l'une des plus importantes revues internationales de chirurgie. En fait, ce sont des estimations qui se basent sur une hypothèse de 12 semaines d'interruption de l'activité, un retard considérable qu'il va falloir rattraper. Mais comment, Véronique Julia ?
Les chiffres annoncés se fondent sur les prévisions communiquées par des hôpitaux du monde entier juste avant l'arrivée massive de la vague au mois de mars. Il en ressort qu'après 12 semaines d'épidémie, plus de 72% des interventions programmées auront été annulées ou reportées dans le monde. En France, au terme des 12 semaines, plus de 700 000 patients auront ainsi passé leur tour. La conséquence de ces annulations, c'est qu'on va ressortir de cette épidémie avec une quantité vertigineuse d'opérations à reprogrammer. D'après l'étude, si la France arrive à augmenter son activité chirurgicale de 20% par rapport à la normale, il lui faudra plus de 10 mois pour résorber le retard. Le docteur Alexis Arnaud est chirurgien pédiatrique au CHU de Rennes et coordinateur du groupe Covid Surge en France. La Bretagne est parmi les régions les moins touchées. Il est pourtant concerné lui aussi.
Nous avons respecté les consignes nationales de déprogrammation de tout ce qui était non urgent. Et la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on peut augmenter encore de 20% cette activité chirurgicale, sachant toutes les difficultés du système de santé actuel avec le manque de moyens dont on a bien parlé avant la crise sanitaire.
Aujourd'hui, les interventions programmées redémarrent, mais tout doucement, car on redoute toujours un rebond de l'épidémie. L'étude conclut pourtant qu'il est important que les hôpitaux reprogramment les interventions le plus tôt possible et qu'un soutien financier et en ressources humaines vienne renforcer leurs capacités.
Et en France, 104 nouveaux décès ont eu lieu ces dernières 24 heures. C'est encore beaucoup, bien sûr, mais c'est à comparer avec les plus de 600 chaque jour début avril. D'autre part, le nombre de patients en réanimation diminue toujours.
Et parmi les victimes économiques de la pandémie, Prestalis, placé en redressement judiciaire.
Le groupe qui distribue les trois quarts de la presse française évite, certes, la liquidation judiciaire, mais il n'est qu'en partie sauvé. Son siège parisien est repris par les quotidiens, mais Prestalis va liquider ses dépôts en région. 512 salariés se retrouvent sur la sellette. Une décision scandaleuse, estime le secrétaire général du syndicat du livre CGT, Didier Lourdes, joint par Alexandra Hakoun. La grève entamée lundi va s'intensifier, dit-il.
On a tous entendu pendant les deux mois de confinement un président de la République et un premier ministre venir à la télé expliquer qu'il lâcherait pas les entreprises, y compris en difficulté. Et cinq jours après le déconfinement, il livre en pâture 512 salariés. Vous imaginez ce que c'est que 512 salariés et leurs familles? Ils ont, pendant ce confinement, assuré la continuité de la distribution de la presse avec des situations parfois pas complètement sécurisées, parce qu'ils considèrent ça comme étant une mission de service public. C'est scandaleux ce qui vient de se faire. C'est scandaleux. Donc nous, on va continuer de toute façon. Le gouvernement portera la responsabilité de ce qui va se passer. Alors qu'on sait que dans la période, la presse a un rôle à jouer.
Voilà donc pour le dossier Prestalis. Et puis, autre information économique, 12 millions de salariés sont concernés par cette mesure qui a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Le chômage partiel comptera bien pour la retraite, une mesure qui vaut pour l'instant pour le régime de base.
Et un autre enseignement de cette épidémie, c'est qu'aucune règle de confinement n'arrête les escrocs.
Pendant trois mois, ils se sont joués des restrictions de sortie, de la Bretagne, Bretagne à la Picardie, de l'Île-de-France à Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ils ont siphonné les distributeurs automatiques de billets selon un système plutôt sophistiqué entre ceux qui étaient sur place de nuit et ceux qui pilotaient l'opération de l'étranger. Récit de Jean-Philippe Denion.
Ils étaient extrêmement mobiles et n'avaient que faire des règles du confinement. La nuit, ils ciblaient un DAB, ils démontaient le plafonnier, ils connectaient un ordinateur sur le logiciel de l'appareil, tandis qu'à distance, en quelques minutes, un pirate informatique prenait le contrôle de la machine et commandait l'expulsion des billets. C'est l'appât du gain qui a conduit à leur interpellation, raconte un enquêteur, les membres du gang relâchant peu à peu de leur vigilance. Appât du gain d'une part, et coopération police-gendarmerie efficace, d'autre part, entre l'Office central de lutte contre la criminalité technologique à Nanterre et la section de recherche de la gendarmerie de Rennes. Deux hommes de 26 et 31 ans ont donc été mis en examen jeudi à Paris et l'enquête se poursuit pour mettre la main sur d'autres complices et surtout sur le ou les hackers qui agissaient depuis l'Europe de l'Est. Il s'agira notamment de déterminer comment l'argent récolté en France était ensuite redistribué aux intermédiaires et de remonter jusqu'au chef de cette organisation internationale.
Jean-Philippe Denieux. Alors pour ceux qui ont strictement respecté le confinement, c'est le premier week-end où c'est l'occasion de se mettre au vert, notamment pour les urbains. En Île-de-France, 39 forêts sont à nouveau ouvertes et je rappelle la règle, pas plus de 100 km à vol d'oiseau de son domicile sous peine d'amende. Il y a ceux qui cherchent l'air pur et ceux qui prennent d'assaut les déchetteries. Confinés chez eux, les Français ont eu le temps de faire du ménage, du tri. Maintenant, ils jettent. File d'attente de plusieurs heures, des automobilistes pas toujours très patients, on l'a vu. Reportage à Meudon de Julie Pietri.
Un peu d'impatience hier après-midi devant la déchetterie de Meudon, près de Paris, où une dizaine de voitures stationnées à l'extérieur du site garaient tant bien que mal sur les bas-côtés d'un rond-point.
Des gens qui vraisemblablement deviennent tous myopes au moment de faire la queue en ne voyant pas qu'il y a 10 personnes qui attendent.
Qu'est-ce que vous venez jeter là aujourd'hui ?
Des gravats et des végétaux. Ah ben, j'ai eu le temps de faire des travaux, de nettoyer le jardin, et donc ça s'est accumulé progressivement. Et c'est mon troisième voyage.
Pour éviter les attroupements, les déchetteries ont dû limiter le nombre de véhicules présents en même temps à proximité des bennes, ce qui a donné par exemple, sur les sites de la métropole du Grand Nancy, des files d'attente de 50 à 60 voitures parfois, avec des scènes à la fermeture notamment que n'aurait jamais imaginé Christophe Fritsch, le directeur de la gestion des déchets.
On a un peu tout eu, entre les insultes, les injures, les menaces. Certains ont essayé de rentrer en voiture, d'autres sont sortis de leur voiture et ont repoussé brutalement le gardien. Enfin, ils n'ont pas de masque, ils viendraient coller leur visage contre la visière du gardien pour exprimer leur mécontentement.
Il appelle ceux qui le peuvent à repousser leur passage en déchetterie au mois de juin. Ce sera sans doute alors plus facile, dit-il. En attendant, plusieurs plaintes ont été déposées.
Et puis à chaque pays son symbole de déconfinement. Pour l'Allemagne, c'est le football, reprise du championnat ce samedi à huis clos avec mesures sanitaires drastiques comme à Dortmund où le Borussia joue à domicile cet après-midi et où on rejoint Jean-Pierre Blimeau.
La Bundesliga a mis tout en œuvre pour réussir son pari, à commencer par décréter un huis clos général. À Dortmund, Uli regardera aujourd'hui le derby contre Schalke à la télévision, un mal nécessaire pour ce supporter de longue date.
C'est une grande catastrophe,
mais on verra bien ce que cela donne à la télé, si la qualité du match sera aussi bonne, ce que je ne crois pas. Pour les joueurs, ce sera un problème, pour moi aussi, mais il n'y a pas d'autre alternative. Le huis clos n'est pas la seule mesure drastique décrétée par la Bundesliga. Tests à répétition, règles strictes dans les stades, jusque dans la vie quotidienne des joueurs et entraîneurs. Mesure jamais vue, mais plutôt bien acceptée par l'entraîneur de Dortmund, Lucien Favre. Cette situation est un énorme défi pour tous les entraîneurs et toutes les équipes. Nous le savons, c'est notre travail. Et les clubs n'obligeront pas leurs joueurs à participer au match s'ils ne se sentent pas en sécurité, rappelle l'entraîneur de Schalke, David Wagner. Chacun sait qu'il peut s'ouvrir et en parler. C'est humain est normal. Même en cas de refus de jouer, le joueur sera le bienvenu et continuera à faire partie de l'équipe, même si pour le moment il ne veut pas s'entraîner ou ne pas jouer. Le défi sera aussi d'éviter les rassemblements près du match, car la Bundesliga a laissé le soin à la police de gérer les abords des stades. Dortmund, Jean-Pierre Blimeau, France Inter.
Et puis vous le savez, aucune terre n'est épargnée par le virus, sauf, je vous le donne en mille.
Donnez-nous ça.
L'Antarctique.
Tiens,
voilà,
bah
tous
oui.
Sur la banquise.
On y va. Pas plus de 100 km, on a dit.
Il ne faut pas se mettre sur le même morceau que Baraton, parce que là, on coule.
Alain Baraton, dans un instant, pour les conseils de plantes et de fleurs. Le temps.
La météo, avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur, qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus, sur fondationdefrance.org.
Avec un temps instable au sud, Jean-Michel Gonaski.
Ah, tout à fait Eric, mais calme et bien dégagé sur les deux tiers nord où le soleil va largement s'imposer au nord d'un axe Bordeaux-Lyon avec passagèrement un ciel un peu plus variable à proximité de la Manche. Sur les régions méridionales, des ondées circulent actuellement du golfe du Lyon-Pyrénées. En journée, ce temps instable et partiellement orageux va gagner vers la Corse, le Massif central et les Alpes avec cet après-midi des températures de 19 à 22 degrés en général, un maximum de 24 prévu sur la Corse et un minimum de 17 sur les côtes de la Manche.